Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais mes chers frères, je voudrais vous montrer, essayer de vous montrer ce matin, dans ces quelques mots, à la suite de saint Augustin, qui prêche pour le sermon sur la Samaritaine qu'on a vue tout récemment dans l'Évangile, avant-hier, vendredi, la troisième semaine, et pour aujourd'hui, avec ce grand miracle de la multiplication des pains, il parle, mais en contraste, en notre Seigneur Jésus-Christ, et ça correspond à ses deux natures, Dieu et homme, sa force divine et la faiblesse en tant qu'homme. Quand il s'assied sur le bord du puits de Jacob, il s'assied, et saint Augustin dit, il s'assied car il est fatigué. Et il s'étonne en disant, mais pourquoi est-il fatigué? Il répond, il est fatigué pour toi, parce qu'il t'attend assis sur ce puits de Jacob. Il est fatigué aussi parce qu'il a une nature humaine, passible, qui mourra, cette nature humaine. Mais la divinité ne meurt pas. Et il dit, en suivant, c'est la fatigue, la faiblesse de Jésus qui t'attire, et c'est la force de Dieu qui te soulève, qui te divinise, qui te restaure. Donc, c'est très important de voir en notre Seigneur Jésus-Christ ces deux côtés. En une seule personne divine, la personne divine du Fils de Dieu, du Verbe de Dieu, mais deux natures humaines. Une nature divine qui n'est pas soumise à la fatigue, à la faiblesse, à la mort. Et cette nature humaine qui, elle, est soumise à la fatigue, à la faiblesse, mais pas celle du péché et la mort. C'est un paradoxe, comme il y a tant de paradoxes dans l'Évangile. Et donc, ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, il est complet. Il faut tout embrasser dans ce grand mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faudrait pas surélever un côté ou abaisser l'autre, il faut prendre les deux. C'est la grandeur de Dieu qui te surélève et c'est la faiblesse de l'homme-Dieu qui t'encourage, dit-il, à le suivre. Car si nous avions uniquement la grandeur de Dieu, nous pourrions être découragés et baisser les bras en disant « ce n'est pas pour moi ». Mais justement, cette faiblesse divine de l'homme-Dieu, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, nous encourage pour que nous nous relévions à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi ce grand paradoxe avec la multiplication des pains. Faiblesse des moyens et résultat extraordinaire, divin, inouï. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, dit à ses apôtres, non pas qu'ils ne sachent pas, car il est bien noté que Jésus sait ce qu'il va faire, mais il éprouve la foi de ses disciples, de ses apôtres. Il voit toute la foule, 5000 hommes, rendez-vous compte. Et on ne compte pas les enfants, les femmes, les vieillards. Donc 5000 hommes adultes, valides, vaillants. Autant dire que la foule était considérable. Et Jésus dit, mais vu la foule qu'il y a, est-ce qu'il y a de quoi les faire manger? Et Philippe dit, Seigneur, avec 200 deniers de pain, même pas la peine d'y penser. Oubliez cela. Mais Jésus ne veut pas les faire retourner chez eux à jeun. Ça fait quand même 3 jours qu'ils suivent Jésus. Sans doute, ils ont des quelques provisions, mais elles sont vite épuisées. Alors, notre Seigneur dit, faites asseoir ces gens. Et là, André, frère de Simon-Pierre, dit, mais il y a un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et les autres apôtres disent, doivent se dire, mais pauvre André, tu aurais mieux fait de te taire. C'est ridicule, autant ne pas en parler. 5000 hommes, 5 pains, 2 poissons. Autant dire, il n'y a rien. Non, il ne ment pas, il dit la vérité. Et Jésus dit, faites asseoir ces gens. Et distribuer. Donc on voit la pauvreté des moyens et par contraste, la grandeur de ce que Jésus va faire. Comme pour cette nature humaine, c'est un moyen très pauvre. Est-ce qu'un homme peut nous sauver? Non. Un Dieu, oui. Un homme, Dieu, effectivement. Donc là, la faiblesse de ces moyens, de ces pauvres moyens, de ces 5 points et de ces 2 poissons, c'est grotesque, c'est ridicule. Autant ne pas en parler. Mais si on en parle, parce que Dieu a fait cette nature, ces pains ne sont pas ridicules. C'est quelque chose qui existe. Et à partir de cela, Jésus va faire un grand miracle. Et saint Augustin, qui commente l'évangile. Ah ben, j'ai pas les feuilles. Donc, il faut que je dise de mémoire ce que j'ai lu hier soir. Sur ce miracle de la multiplication des pains. Oui, il dit ceci. J'espère que je manquerai pas beaucoup de paroles. Donc, 5 pains, c'est ridicule. Et saint Augustin dit bien ceci. Regardez la nature. Le paysan, il met sa semence en terre. Quelques semences. Et quelques mois plus tard, le produit est de non seulement 100 pour 1, mais de 1000 pour 1. Donc le miracle, il est éclatant. Et il a tous les jours le miracle. Nous sommes abreuvés de miracles chaque année, via chaque frère. Donc ce miracle de la multiplication des pains, il nous étonne. On dit c'est extraordinaire. Et c'est unique, effectivement. Enfin, 2 fois Jésus-Christ a fait ce miracle. Une fois pour 3000 personnes, l'autre fois pour 5000 personnes. Mais c'est chaque année et depuis la création du monde que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu fait chaque année ce miracle de la multiplication, non pas des pains, mais de toute la nature. Toute la nature. C'est merveilleux. Et nous sommes insensibles à ce miracle quotidien, annuel. Ouvrons les yeux. Et c'est pour cela que saint Paul dit, dans l'épître aux Romains, les païens sont inexcusables parce qu'ils ont vu les œuvres de Dieu et ils ne rendent pas la gloire que le bon Dieu mérite pour ses miracles quotidiens. Ils sont inexcusables. En tant qu'homme avec une intelligence créée, on ne parle pas de la surnature, mais de cette nature, l'homme, par sa raison, arrive à la conclusion « Dieu existe » par ces miracles étonnants. Le printemps commence, voyez-vous. On voit peu à peu les fleurs qui sortent de terre, les bourgeons qui sortent des arbres, alors que pendant 3 mois, c'était quasiment mort, des arbres dépouillés. Et puis tout d'un coup, la nature bouge, éclate. On dira, oui, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Mais qui a organisé ça? C'est Dieu qui organise, avec ce rythme annuel des saisons, ce miracle dans la nature. C'est une preuve que Dieu existe. Saint Paul parle de cela. Saint Augustin manifeste dans le commentaire de cette multiplication des pains ce miracle annuel. Alors, après ce miracle, on veut faire de Jésus le roi. Mais attention, pourquoi Jésus-Christ va-t-il s'éclipser? Parce que les Juifs veulent faire de lui un roi terrestre. Et Jésus ne veut pas de cette royauté purement terrestre, purement terre à terre. Il veut d'une royauté supérieure. Être roi des âmes, roi des cœurs, roi des volontés. Il a fait du Christ roi. Alors, ce n'est pas dit dans l'Évangile, c'est ailleurs. Jésus-Christ est rejoint par la foule. Et là, Jésus-Christ va faire non pas un miracle, mais tout un enseignement sur le pain de vie. Et avant ce pain de vie, il va faire appel à la mémoire des Juifs en leur disant « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, la manne, cette nourriture mystérieuse pendant des années. Mais vos pères en ont mangé et pourtant ils sont morts. » C'était une nourriture miraculeuse, mais cette nourriture ne les a pas immunisés contre la mort. Eh bien moi, dit Jésus, je vais vous donner une nourriture pour la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est moi-même. Il parle de la Sainte Eucharistie. Alors, des disciples s'écartent de lui en disant, mais ce discours est insupportable. Qui pourrait entendre cela? Ils vont s'écarter de Seigneur Jésus-Christ, ils vont le rejeter. Donc, on voit qu'il y a une séparation. C'est tranchant. On croit en Jésus-Christ ou on refuse de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et le motif, c'est la Sainte Eucharistie, qui est une délimitation. Et la Sainte Eucharistie, eh bien, c'est ce pain qui vient de la terre, voyez, ce blé. Grand miracle, grand mirage. Il y a toute une suite, voyez, une suite extraordinaire, une suite logique, une suite spirituelle. Et encore une fois, on peut voir aussi ce paradoxe. Qu'est-ce que c'est que ce petit bout de pain? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Faiblesse des moyens, mais grandeur de la réalité. Même ce moyen échappe à nos sens. On voit du pain, mais ce n'est pas du pain. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette nature du pain est transsubstantiée en une nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu. Donc, mes bien chers frères, méditons ces évangiles. Tirons pour notre âme, pour notre bienfait spirituel, tout ce qu'on peut retirer de substance, de nourriture. Et avec cette Samaritaine, Saint Augustin commençait avec cette Samaritaine, Jésus est fatigué, il s'assied, car en s'asseyant, il veut attirer à lui cette pauvre âme, cette pauvre pécheresse, pour lui parler, de l'eau. Il demande de l'eau, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Mais qui, en définitive, va donner à boire à qui? C'est la femme qui va donner à boire à notre Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr, elle veut le faire, puisque Jésus-Christ lui demande de l'eau. Mais plus que quiconque, c'est elle qui a besoin de boire. Jusqu'à présent, elle n'a pas soif. Parce qu'elle pensait que tous ces plaisirs dont elle était, dans lesquels elle se vautrait, elle a cinq maris et ce n'est pas le sien avec lequel elle vit actuellement, lui dira notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est un prophète, il m'a dit mes péchés, sans que je les lui dise. C'est un prophète. Mais c'est cette âme qui a soif. Elle ne savait pas qu'elle avait soif. Et Jésus lui dit, je vais te donner une eau pour l'éternité, comme la nourriture aussi, la nourriture de cette multiplication des pains, c'est aussi pour l'éternité. Donc cette eau pour l'éternité, ce pain aussi pour l'éternité. Et cette eau, c'est une eau de vie. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ lui parle des sacrements, et en particulier le baptême, par lequel nous sommes régénérés, lavés de nos péchés. Et dans l'Évangile, il y a un seul mystère, notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut se donner à nous avec effusion. Là encore, l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est un pauvre moyen, mais l'effet est spirituel. La purification de tout notre être. Alors Jésus-Christ, voyez, prend des moyens vraiment dérisoires au départ. Il les transforme pour en faire des moyens de grâce, de vie divine. Approchons-nous avec joie de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ce carême qui poursuit sa course. On a maintenant passé la première partie, on arrive à la plus grande des parties du carême, mais que cette première partie nous y dirige avec efficacité. Ayons soif, ayons faim de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.